C'est le grand retour de la librairie francophone estivale ce soir, avec 9 étapes dans 9 villes.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérad.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette déclinaison de la librairie francophone qui vous accompagnera tout l'été. C'est le premier numéro de la librairie francophone estivale, 3e saison. On est très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. La librairie francophone se décline donc dans une version estivale, diffusée sur votre radio publique francophone habituelle et sur la radio RFI qui rejoint la coproduction. L'émission s'ouvre tout l'été à toutes les disciplines culturelles et nous allons vous faire voyager à la découverte de villes et de lieux grâce à des reportages inédits dans le monde, des rencontres, des musiciens en studio et le club francophone qui rassemble auteurs et artistes. Cette année, la nouveauté est de taille. Chaque semaine, nous serons dans une ville francophone pour réaliser cette émission en déambulation avec des moyens techniques mobiles. Aujourd'hui, nous sommes donc à Montréal pour cette immersion estivale avec les Francofolies comme décor sonore. Nous parlerons des grands espaces naturels avec le Québécois Éric Plamondon et les Françaises Anne-Marie Gara et Catherine Meurice. Nous irons dans les coulisses donc des Francofolies de Montréal pour un grand club francophone inédit avec l'Ivoirien Tikonja Fakoli, la Canadienne Salomé Leclerc, la Suissesse Vendredi sur mer et les Français des Négresses Vertes qui font leur grand retour sur scène. Vous entendrez aussi une entrevue avec Nancy Houston, un titre acoustique joué dans nos studios, interprété par les Maliens Mamani Keita et Pedro Kouyaté. Mais on commence avec notre série Un auteur, une ville. Pour cette première, on reste au Québec avec un lieu choisi par Laurent Godet.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Guérad.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy.
Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes à Montréal et on vous a demandé de choisir un lieu qui évoque quelque chose pour vous. C'est un lieu emblématique pour les Canadiens, pour le monde entier finalement. On est sur une toute petite place. Il y a juste à côté de nous un petit kiosque à musique. Derrière, une rue passante avec plein de voitures. Devant nous, on a un petit immeuble tagué, un peu abandonné. Et juste en face, il y a la maison.
La maison absolue de Montréal, c'est-à-dire la maison du grand Leonard Cohen, qui est une petite maison qui a l'air de rien, dire vrai, qui est en briques grises, un peu improbable, pas du tout la grande maison de la star. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cette humilité qu'elle a dans sa maison. Et puis cette petite place, je l'aime bien, parce qu'elle est à l'image de Montréal parfois, c'est-à-dire elle est pas chichiteuse. Voilà, c'est simple, c'est sympa, il y a juste quelques carrelages portugais, parce qu'on est sur la place du Portugal.
Voilà, exactement.
Voilà, qui est à l'angle, pour ceux qui connaissent, de la rue Saint-Laurent et de la rue Marianne. Rue mythique, puisqu'il y a tout un débat pour savoir si la fameuse chanson de Leonard Cohen, So Long Marianne, a été écrite en l'honneur de son égérie, Marianne Hélène, ou parce qu'il habitait juste à côté de cette rue. Et voilà, j'aime bien cet endroit, ça me rappelle les chansons de Leonard Cohen. Et puis je trouve que c'est paisible, en fait.
Now so long.
Justement, il y a un écriteau parce qu'on a refait un petit peu la signalétique, la signalisation de la rue, et on a rajouté un écriteau qui fait référence à la chanson de Leonard Cohen.
Voilà, sur l'écriteau de la rue Marianne, les gens ont rajouté « So long Marianne and Leonard » et je trouve ça vraiment... C'est très présent, je trouve, à Montréal. Il y a 200 mètres plus loin, il y a un immeuble de 9-10 étages sur lequel il y a une énorme peinture murale où on voit la tête de Leonard Cohen.
Oui.
Et je trouve que c'est cette manière de... qu'à la ville d'afficher sa fierté vis-à-vis d'un de ses fils. Je trouve ça assez touchant, en fait. Je trouve ça assez beau. J'imagine que les gens du quartier ici ont des souvenirs de Leonard Cohen et que c'est assez précieux, une ville qui célèbre les siens comme ça.
Alors venez, on va aller dans le petit kiosque parce qu'il m'intrigue. C'est très joli, en fait, comme endroit. Il y a ce kiosque et cette place, hein, qui est toute petite, illuminée. On a des drapeaux, là. Ça fait un peu...
Dont un drapeau portugais.
Dont un drapeau portugais, voilà. Ça résonne un peu. Ah oui, c'est drôle. On a un son très particulier ici. Et puis, il y a, juste en face de nous, Laurent Godet, un endroit qu'affectionnait Leonard Cohen, la maison du Bagel. Il y a plein de maisons du Bagel ici, Saint-Viateur, enfin on va pas citer tous les noms. Et puis il y a celui-ci là qui est juste en face, dans lequel Leonard Cohen allait.
Et puis on est rue Saint-Laurent, donc il y a un peu plus bas, pas très loin, il y a le fameux Deli Schwartz, où on peut manger des sandwichs cachers avec des gros cornichons, le pickles, qui est un peu mythique à Montréal.
Avec donc, la fameuse viande fumée.
Avec la fameuse viande
smoked
fumée.
Smoked meat, comme on dit en francophonie.
Donc ouais, non, il y a tout ça, il y a ce mélange de communautés portugaises, il y a des tas de petits restos des Açores au coin, et puis aussi de la communauté juive québécoise, donc ça fait un beau mélange, effectivement.
Alors Leonard Cohen avait des habitudes ici, il faut savoir qu'il sortait de sa maison, qu'il allait dans le quartier, et qu'au moment de sa mort, il y a eu une grande ferveur populaire, et les Canadiens, les Québécois se sont retrouvés ici sur cette place, ont fleuri toute sa maison, et on va aller voir, tiens, comment est la maison aujourd'hui.
Juste devant, allons-y,
allons-y, allons voir. Dance me to the end of love.
Dance me to the end. Et là, on arrive, donc c'est quasiment le bâtiment, mais je pense que c'est plutôt des voisins qui ont mis là, sur leur fenêtre, une série de petites photos.
Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, exact.
Dont un portrait de Leonard Cohen, enfin un deuxième à côté. Et voilà, ça rencontre toujours la même chose, le bonheur qu'ils ont eu de cette proximité, j'imagine. C'est chouette, c'est tout simplement chouette.
Vous étiez fan de Leonard Cohen, vous êtes fan de Leonard Cohen,
mais
c'est
oui,
vrai
absolu, oui, oui, oui. Et puis je disais, j'ai eu la chance de le voir, je me souviens d'un concert à l'Olympia, d'un autre à Bercy. C'était le vieux Leonard Cohen, plus de 70 ans, et il avait tout honnêtement pour faire un concert où il arriverait 45 minutes en retard et où le concert ne durerait qu'une heure. Les deux fois où je l'ai vu, moi, le concert a duré 3 heures. Il donnait tout ce qu'il avait, une espèce de générosité totale que je trouve extrêmement... humble et cache, et j'aime beaucoup ça, ouais. C'est une belle leçon, je trouve.
Elle est où ? Là, juste là, ouais. Le 28, voilà, avec une porte grise.
Il y a encore une rose un peu fanée qui a été déposée.
Ah oui, exact, rose rouge.
Rose rouge,
voilà. Une grande porte peinte en gris avec ce numéro 28. C'est éclairé à l'intérieur, enfin, c'est très émouvant de se retrouver là.
Ben oui, oui, et puis aussi si on va sur Saint-Denis, qui est juste à côté, d'une manière plus générale, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits comme ça où sur les murs de la ville, il y a des fresques murales, il y a quelque chose sur Dany Laferrière, sur Saint-Denis, quelque chose aussi sur Michel Tremblay. J'aime bien la manière que Montréal a de fêter ses auteurs. C'est assez réjouissant.
Alors toute votre œuvre, Laurent, oui, elle est empreinte comme ça des vibrations du monde. Et vous êtes en connexion avec le monde. Vous êtes difficile à joindre, hein, parce que souvent on se dit on va boire un verre ensemble, on va dire la vérité aux auditeurs, et on n'y arrive jamais, parce que vous êtes tout le temps, partout dans le monde.
Oui, mais vous aussi, Emmanuel.
Oui, mais moi que vous, hein. Moi je reste sur la francophonie.
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que j'aime bien que mon écriture se nourrisse de l'ailleurs, et c'est vrai que c'est souvent l'ailleurs qui me donne envie d'écrire. Et puis il y a le fait aussi que mes mots vont être entendus, traverser l'Atlantique et être attendus au Québec ou à Beyrouth quand il se passe quelque chose. C'est vrai que ouais, ça m'émeut beaucoup là, que les mots voyagent plus vite que l'auteur. J'ai du mal à suivre des fois, mais c'est quand même plutôt assez chouette. Ouais.
C'est vrai que vous avez cette œuvre considérable aujourd'hui qui a marqué la littérature francophone déjà, alors que vous êtes un auteur contemporain, tout jeune encore, et on est fasciné, on est captivé par vos histoires, même si parfois elles sont exigeantes et qu'on peut vous critiquer pour ça, mais c'est un grand succès partout, à chaque fois, dès que vous sortez un livre, les gens vont l'acheter.
Oui, enfin, pas partout, tout le temps, bah, calmons-nous.
Souvent, si.
Oui, non, mais c'est que dire de ça, c'est chouette, c'est une belle aventure. Peut-être aussi que le fait qu'il n'y ait aucun de mes romans qui se passe dans un appartement du 6e arrondissement avec parquet, moulure et cheminée et qui raconte l'histoire d'un couple qui se défait ou se refait aide aussi les gens du monde à rentrer dans mes histoires parce que du coup, c'est peut-être un peu plus ouvert.
On est arrivé sur le boulevard Saint-Laurent, qui est un boulevard emblématique, qui traverse presque la ville. Il y a comme cela des axes à Montréal importants.
Oui, et puis il y a aussi un côté, alors bien sûr francophone, c'est pour ça qu'on s'y sent bien aussi, la langue aide beaucoup, mais on est aussi en Amérique, et ça se sent dans l'architecture de la ville, c'est une ville qui est quadrillée, il y a des blocs comme ça, et il y a beaucoup d'Amérique ici.
Merci beaucoup Laurent Godet.
Merci Emmanuel.
Pour cette balade à Montréal, merci de nous avoir accompagnés ici sur la place du Portugal, avec cette maison de Leonard Cohen, toute seule désormais.
Voilà.
Et qui est un lieu de pèlerinage pour beaucoup de fans.
Mais qui, je pense, va rester longtemps un lieu de ferveur quand même.
Merci Laurent.
Au revoir.
Au revoir.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Et nous allons nous diriger vers la place des Arts, où se trouve le site des Francofolies de Montréal, en passant par le quartier latin. Dans deux minutes, on prend un bol d'air avec le Canadien Éric Plamondon et les Françaises Anne-Marie Gara et Catherine Meurice, qui portent un regard sur la nature et les grands espaces. Avant cela, voici une curiosité musicale québécoise avec la reprise d'une chanson que vous connaissez tous. Écoutez bien attentivement les paroles. Bel été à tous sur votre radio francophone.
Dans la rue, pauvre de femme, oh combien je t'ai vu, pauvre de femme. Je ne le crois pas, tu n'es pas réel. Aucune femme est aussi belle. Merci. Pauvre de femme, me pardonneras-tu, pauvre de femme.
Et c'était le groupe québécois Bleu Jeans Bleu avec Beau Brin de Femme, c'est le titre, si si, sur France Inter, RTBF la première, ici Radio-Canada première, RTS la première et sur RFI. On est arrivé au cœur du quartier latin après avoir descendu la rue Saint-Denis avec le quartier des cinémas et des théâtres juste face à nous. Et puis derrière, dans une ruelle récemment rénovée, la Bibliothèque Nationale qui célèbre ses 50 ans et qui est un endroit majeur pour la culture québécoise. On vous parle de la nature à présent avec deux écrivains et une auteure de BD. Merci d'être avec nous en public ici à Radio France. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Vous avez longtemps travaillé pour Charlie Hebdo. Après La Légèreté qui racontait votre vie après l'attentat de Charlie, vous avez publié Les Grands Espaces chez Dargo. Vous êtes à côté d'Anne-Marie Gara. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Vous avez publié Le Grand Nord-Ouest aux éditions Actes Sud. Vous racontez une épopée comme cela dans la fin des années 30 dans les espaces canadiens. Puisque nous allons parler des grands espaces ensemble. Et puisque l'on parle du Canada, il y a Éric Plamondon qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Comment allez-vous Éric?
Très bien.
Vous êtes un auteur canadien que l'on suit depuis plusieurs années dans la librairie francophone. Et vous publiez Takawan. On va commencer par quelque chose d'exotique. Qu'est-ce que c'est Takawan? Qu'est-ce que c'est un Takawan?
Alors le Takawan, c'est le nom que la tribu Mi'kmaq de la Gaspésie au Québec donne au saumon quand le saumon naît dans sa rivière natale, va descendre le courant après 3 ans à peu près, va partir dans l'Atlantique au grand large, et au moment où il va revenir dans sa rivière natale pour frayer, les Mi'kmaq l'appellent le Takawan.
Voilà.
C'est le retour aux sources.
Anne-Marie Gara, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, vous, de partir comme ça dans les grands espaces canadiens et de raconter cette histoire identitaire?
Bah d'abord parce que je suis comme beaucoup de gens ici, dans toute l'Europe, occupée, habitée par un imaginaire qui m'a été transmis par le cinéma, le grand western classique, etc., par le roman, par mes lectures de Jack London et tout le reste. Mais je crois aussi parce que je suis au fait, en tant que femme d'aujourd'hui, de ce que Eric est en train d'évoquer, de cette mémoire enfouie du Canada comme des États-Unis, mais peut-être pire encore au Canada. Je me sens concernée, c'est pas parce que c'est un territoire. Nous y sommes allés, nous les Français, avec les Anglais et tout le reste, ça fait partie de notre histoire.
Eric Plamondon, ça va très loin, c'est vrai que ces histoires de suprématie. Alors, il y a des histoires incroyables, parce que vous vous rappelez dans votre livre, par exemple, que dans les années 70, il n'était pas rare de voir des annonces de vente de rivières québécoises dans les journaux américains, dans le New York Times, par exemple. C'est le New York Times ou je sais pas quel journal.
Le New York Times, des réserves de pêche où on disait rivière à vendre.
Rivière
pour
à
ceux
vendre.
Qui ont les Américains qui venaient déjà pêcher le saumon dans la rivière du Québec, dont la rivière Restigouche. Mais on en était rendu là, justement, sur la côte nord. On parlait des Inuits tout à l'heure, les montagnais. Et c'était des choses qui se faisaient jusqu'à temps qu'on va passer par la déclubisation, les clubs de pêche, la fin des clubs de pêche privés. Mais pendant des années, c'était ça. On arrivait sur les territoires indiens en disant « Tassez-vous, maintenant c'est chez nous, on est ici pour faire du sport. »
Anne-Marie Gara.
Oui, parce que je parle davantage du Yukon et de l'Alaska. Là, ce qui était très frappant, c'est que dans des territoires comme cela, il y a d'une part l'exploitation forcenée des colossales ressources fossiles, du pétrole, des gaz, etc., et d'autres qui viennent. Alors que le pergélisol fond là-bas, comme ailleurs en Sibérie, etc. Et qu'elle est, comme je le fais dire à Cascale, mon indienne, mon amérindienne, la mémoire, l'archive de la terre. La terre ne s'appartient qu'à elle-même. C'est là que les mammouths, les nœuds broutés, on l'oublie. On est en train de saccager là-bas, dans le Grand Nord. Trudeau a quasiment autorisé Trump à traverser ces territoires avec son pipeline. Et l'autre danger, c'est ça. C'est la sanctuarisation des forêts boréales là-bas, en parcs nationaux, qui sont désormais interdits aux Amérindiens, qui sont réservés à quelques richards qui viennent chasser à ça coûte un bras d'aller chasser là, et des massacres d'animaux, etc. Mais les Amérindiens en sont chassés, n'ont le droit ni d'y résider, ni d'y chasser, pêcher, etc., ni d'y être nomades. Les parcs nationaux comme une espèce d'aboutissement d'une écologie imbécile qui va conserver la nature, dans une espèce d'état de muséalisation, de sacralisation que nous sommes en train de piétiner à l'échelle mondiale, n'est-ce pas, la notion de nature interprétée en réseau. On parle de chamanisme, mais c'est pas du folklore là. Le chamanisme, l'animisme, est une manière d'interpréter la nature comme un milieu vital duquel nous dépendons. Il serait temps qu'on se réveille.
Catherine Meurice, vous avez connu la cabane au fond du jardin et pas vraiment les grands espaces quand vous étiez enfant, puisque votre enfance a été marquée par la nature. Ça a été d'ailleurs un refuge pour vous après cette tuerie immonde. Vous êtes retrouvée dans la nature de votre enfance pour vous apaiser un peu ?
J'avais besoin de retourner à l'enfance, oui, et il se trouve que j'ai grandi à la campagne pour faire un peu un état des lieux. Les deux albums sont liés, celui que j'ai fait il y a 2 ans, La Légèreté, qui parlait de ma reconstruction à travers les arts pour essayer de rester debout après la catastrophe de Charlie il y a 3 ans. Et là, les grands espaces vraiment posent la question d'où je viens et d'où je parle. Et j'avais absolument besoin de ce retour aux racines dans tous les sens du terme.
Vous écrivez à un moment « La mort à la campagne, on s'y habitue. La vie est beaucoup plus surprenante ».
Oui, c'est un moment où, évidemment, j'ai fait ce livre en pensant à mes amis de Charlie. De toute façon, je les ai toujours en tête depuis ce qui s'est passé. Oui, à la campagne, étonnamment, la mort est présente partout, dans les bourdons qu'on trouve morts sur la route et qu'on enterre au fond du jardin, ou quand on va tuer le cochon chez les voisins fermiers, etc. Donc, c'est très naturel. En revanche, la vie est très surprenante et je le dessine. Et j'ai assisté gamine à la naissance de chevreaux ou de veaux. Et ça, c'est absolument éblouissant. Et ce que je dis aussi, je crois, dans ce livre, c'est une façon de me rendre peut-être un peu plus forte, un peu plus solide, mais c'est que, gamine, j'ai pas, à part la mort des animaux, j'ai pas connu la mort des hommes, en quelque sorte. Ou alors, c'était dans des livres d'histoire, où il y avait le monument aux morts sur la place du village. Bon, voilà, les morts, c'était l'histoire. Et 20 ans après, les morts, là, je me suis pris une bonne raclée. C'est comme si je découvrais, en quelque sorte, la mort. Donc, il fallait que j'aille chercher, que j'aille fouiller autour de ça pour dire, tourner autour. Avec tendresse et humour aussi, parce que ce livre est plutôt léger.
Prétend,
la légèreté que j'annonçais en titre de l'album il y a 2 ans, elle est présente dans ce livre.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Quérade.
Alors qu'on arrive sur la rue Sainte-Catherine en direction des Francofolies de Montréal avec ce club francophone des Francofolies cette semaine et Salomé Leclerc, Tiken Jafakoli, Vendredi sur Mer et les Négresses Vertes qui seront avec nous pour leur grand retour. On écoute avant le dernier titre de Christine and the Queens.
C'est une chanson, ça n'engage que nos prénoms, dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons, mais quand même cette chanson est une pensée, moi qui sais te trouver. Tout vient par grand froid de ta bouche labée. C'est comme si ce n'est, tu me mets plus fort, baby. C'est comme si ce n'est, tu me mets encore. C'est comme si ce n'est, tu peux presque le replacer. Je me dis quand je pars en morceaux, tu ne sais pas me regarder. Et ma voix de chevalier rend justice à ma beauté. Plus douce et tranchant quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte.
Nous sommes sur la place des Arts, juste à côté, avec des bancs en béton qui ont été installés et des assises en bois. Le théâtre du Nouveau Monde qui est face à nous, une rue piétonne, très animée évidemment, puisque c'est le plein été ici à Montréal. C'était donc Christine and the Queens avec Comme si on s'aimait sur votre radio francophone.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérad.
Tourne encore. Tourne encore. Tourne encore.
Et on ouvre l'été avec un club francophone autour de quatre artistes, un club Francofolie ici à Montréal. Bonjour Salomé Leclerc.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le public francophone vous connaît grâce à ce titre Tourne encore en 2012. C'était un gros succès, réalisé d'ailleurs avec Émilie Loiseau. Cela vous a mis un peu de pression pour continuer?
Assurément. Je pense que la pression vient de moi, par contre. La plus grosse pression vient de soi, souvent. Et évidemment, ça a commencé quand même en force, parce que le premier album réalisé, enregistré à Paris avec Émilie Loiseau, ben la suite, on veut pas décevoir pour la suite. Puis les critiques avaient été tellement bonnes pour mon premier disque que évidemment, on veut pas décevoir, on veut mettre la barre haute. Et voilà.
Alors, il faut savoir que vous êtes une grande lectrice, Salomé Leclerc. Vous dites que la littérature vous fait voyager et que vous avez plus de livres autour de vous que de disques quand vous composez. À quoi vous servent-ils, ces livres?
Ça me nourrit. Ça me nourrit.
Et vous piochez dedans? Comment ça se passe?
Ah, complètement. J'ai des livres, j'ai des romans, j'ai des textes aussi, des livrets de textes, d'albums. Et quand j'écris, quand je compose... j'ai toujours ces livres-là qui sont tout prêts. Je les ouvre quand il me manque d'inspiration ou quand j'ai juste besoin de trouver des nouvelles avenues. Je prends ces livres-là et je lis des phrases, je lis des paragraphes. Des fois, il n'y a rien qui me vient, mais des fois, c'est juste un mot qui va déclencher une nouvelle idée pour continuer le texte. Je me considère pas comme une grande lectrice parce que je lis tellement pas vite que j'ai pas une tonne de livres à la maison, mais il y a toujours des livres qui traînent en chantier, des livres que j'ai lus à la moitié, aux trois quarts, des fois que j'ai même pas terminé, mais justement, je m'en sers pour la création beaucoup.
Par fragments, on peut le dire aussi par fragments. Et il y a un livre idéal pour ça, un livre que vous auriez aimé avoir écrit. Vous l'avez dit dans Le Devoir, la presse québécoise. C'est l'art presque perdu de ne rien faire.
C'est un album, je trouve, pas un album, un livre.
Ça pourrait.
Déjà, oui, c'est ça. C'est un livre. Déjà, Dany Laferrière, un auteur incroyable.
On salue, c'est un grand fidèle de l'émission, vous le savez.
Ah oui, moi, je le salue, Monsieur Laferrière. Donc, je le salue et je lui dis qu'il m'inspire beaucoup parce que, en fait, c'est un livre. Ce livre-là est tellement intemporel. Et c'est justement, c'est des pensées, c'est des petits films, c'est des petites histoires. Tu sais, on peut ouvrir le livre n'importe où et... Et c'est drôle parce que c'est un livre qui m'a pris tellement de temps à lire parce que je lisais un petit bout, je lisais une page, je refermais, je pensais, là, je partais là, loin, loin, loin. Donc oui, la lecture, surtout celle de l'écriture, celle de Dany Laferrière, me fait voyager beaucoup.
C'est vrai que c'est un livre absolument génial. On pourrait très bien être ici avec Dany Laferrière, autour de cette table où nous sommes sur la Place des Arts, avec une terrasse qui domine les Francofolies, terrasse en contrebas avec du bois autour de nous, et puis une mangue,
oui,
la mangue
c'est ce que j'allais dire.
Qu'il adore. Voilà.
Un café et une mangue.
Et qui est en couverture de ce livre. Vous aimez aussi les poèmes de Leonard Cohen. Il faut savoir que pas très loin d'ici, rue Crescent, il y a une grande fresque sur un immeuble, sur la façade d'un immeuble très haut. On voit Leonard Cohen, on a plein de bars autour, c'est le quartier un peu anglophone de Montréal, avec plein de bars, plein de pubs, plein de restaurants. Et vous aimez la poésie de Leonard Cohen. Qui trouvez-vous dans cette poésie, Salomé Leclerc?
C'est un peu comme le livre qu'on vient de parler de Dany Laferrière. J'ai son livre de poésie et je m'en sers de la même manière. Ça me fait juste du bien. Ouais.
Moi, il y a un titre sur votre album qui me fait penser à tout ça, à tout ce dont on vient de parler, les fragments de Dany Laferrière et puis la poésie de Leonard Cohen, c'est ton équilibre.
Besoin de ton équilibre encore, de me tenir debout sans effort.
Ton équilibre étant un des textes les plus directs que j'ai écrits. Et je pense que ça les rejoint. Ça rejoint aussi le public. À chaque fois que je fais cette chanson-là en spectacle, il y a une réaction vive parce que, veux pas, moi aussi, je suis dans un état aussi de fragilité.
Et... C'est le refuge en l'autre. Après, on l'interprète comme on veut, mais moi, je l'interprétais comme le refuge en l'autre. Quand on n'est pas très bien, quand on a quelqu'un d'équilibré autour de soi, ça aide beaucoup.
Oui. Et je pense que ma production a duré 2 ans de temps et j'ai pas été en équilibre très souvent. Donc c'est peut-être pour ça que cette chanson-là me parle autant.
Mais il y avait des proches autour de vous en équilibre, j'espère.
Pour me ramener, oui, me rééquilibrer un petit peu, oui.
Bon, Francofolie de Montréal, Francofolie de La Rochelle, Francofolie de Spa. Vous avez participé aux trois, Salomé Leclerc. C'est la même maison, c'est la même chaleur, les mêmes valeurs?
Ah, je dirais que oui. J'ai toujours été bien reçue dans les Francofolies, que ce soit Montréal, France, Belgique. Et il y a quelque chose de magique aussi dans le fait de... Je m'étale, mais il y a quelque chose de magique dans le fait de voyager avec sa musique et d'aller sur un autre continent, dans un autre pays, chanter ses chansons et de voir qu'il y a une réception et qu'elle est belle, cette réception-là.
Le son des Francofolies, c'est un peu le son de l'été, oui. Du mois de juillet. Hein, on pense aux Franco à chaque été et on est en plein dedans. Merci beaucoup, Salomé Leclerc.
Merci à vous.
Merci. Votre nouvel album, Les choses extérieures, est disponible en CD et numérique. Et nous allons quitter cette terrasse en bois pour nous retrouver juste en haut. Regardez, Salomé, il y a une terrasse avec un comptoir, vous le voyez là?
Oui.
Et on va rejoindre Tikenja Fakoli à quelques mètres d'ici, l'ivoirien Tikenja, sur une terrasse qui domine cette fois la Place des Arts sous le soleil québécois. Merci beaucoup, Salomé.
Merci,
à bientôt.
Oui, à bientôt.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud.
Dans ce club francophone aux Francofolies de Montréal, nous voici sur les hauteurs de la rue Sainte-Catherine avec un joli comptoir en zinc qui domine cette rue et qui domine du coup tout le festival des Francofolies de Montréal avec un habitué de Montréal qui est avec nous. Bonjour Tikenja Fakoli.
Bonjour.
Votre nouvel album, Tikkunja Fakoly, Le Monde est chaud, aborde les problèmes environnementaux. Pas seulement, il est question de la Libye aussi, il est question du racket. Vous aimez parler du racket des politiques qui volent les pays, mais surtout de l'environnement. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique en Afrique? Qu'est-ce que vous avez constaté, vous?
Ce que j'ai constaté comme conséquence du réchauffement climatique en Afrique, c'est qu'il y a des pays qui sont, des villes qui sont proches des côtes et qui ont constaté que leur territoire diminue d'année en année. Et donc, je pense qu'il y a aussi le changement de température, de climat. Enfin, Abidjan, normalement, la saison pluvieuse, c'est juin, juillet, août. Mais quelquefois, on n'a pas de pluie. Et puis, tout à coup, brusquement, dans des périodes où il ne doit pas pleuvoir, il pleut. Donc, je pense que la planète est très perturbée. Et donc, il y a urgence. Je pense qu'on est tous fiers de d'avoir des enfants. On aime nos enfants. Et on doit se faire le souci de savoir sur quelle planète ils vont vivre après nous.
Vous dites rêver de voir des manifestations autour du climat, pour le climat, partout dans le monde.
Ouais, ça c'est mon rêve.
Mais vous pensez que c'est possible ça?
Je pense que si on continue à en parler, si on continue à sensibiliser, si les gens se rendent compte réellement du danger, ça peut faire bouger les choses. Parce qu'il y a des dangers, il y a des détails qu'on ne sait pas, que le grand public ne sait pas, mais que les spécialistes savent, que les scientifiques savent. Et je pense que si tout le monde est informé sur ces grands dangers-là, moi je suis certain que ça va bouger partout et qu'on va organiser des manifestations et que ce sujet sera au cœur de toutes les campagnes électorales pendant plusieurs décennies.
Alors c'est ça le problème, ce sont les politiques pour vous, Tikkunja Fakoly, ça suffit maintenant. C'est ce que vous dites dans l'album,
oui.
Il y en a marre que les politiques ne s'intéressent pas au fondamental, parce que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Vous dites qu'ils ne font que promettre et se foutent de la morale.
Ouais.
Une chanson, Tikkunja Fakoly, c'est plus fort qu'une responsabilité politique? On vous a souvent posé cette question-là, ouais, de devenir un jour peut-être président ou ministre, mais vous dites non.
Moi j'ai dit non, parce que une chanson est plus forte qu'une action politique, en fait, qu'être député ou... Voilà. Moi, aujourd'hui, je peux m'adresser à toute la planète. En tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, je peux m'adresser aux Sénégalais, aux Kenyans, etc. Mais si je suis un député ivoirien, je vais avoir du mal à parler des affaires intérieures du Sénégal. On va tout de suite me dire, non, attention, vous êtes en train de faire de l'ingérence dans les affaires d'un autre pays. Mais en tant qu'artiste, je pense que la chanson n'a pas de frontières, la chanson n'a pas de barrières. Et donc, voilà, c'est vraiment une arme pour moi qui est plus importante qu'une responsabilité politique.
Merci beaucoup, Tikkunja Fakoly.
C'est moi qui vous remercie.
Merci de nous avoir retrouvés ici sur la place des Arts. On est un petit peu en hauteur. Il y a des balances là qui commencent juste derrière nous. C'est beau, cet endroit. C'est un bel endroit.
C'est magnifique. Montréal en été, c'est magnifique.
Vous allez le passer où l'été d'ailleurs, Tikkun?
L'été, moi je suis en tournée, donc je serai en train de travailler. là, je suis sur la route jusqu'au mois de septembre pour le moment. Et après, il y a une tournée de clubs qui démarre au mois de novembre qui va nous amener. Je crois que là, avec cet album, nous serons en tournée jusqu'en 2021.
D'accord. Travail et réconfort en même temps.
Voilà, exactement. Travail, oui, parce que la musique, ça nous fait voyager.
Et oui, et le public aussi.
Voyager, le public nous fait voyager aussi. Donc, on a beaucoup de chance.
Merci beaucoup, Tikkunja Fakoly. Merci d'être fidèle à la librairie francophone. Nous allons aller voir un autre artiste dans ce club francophone renommé aujourd'hui pour l'occasion, Club Francofoly, ici à Montréal. Et on part rejoindre la Suissesse Vendredi sur Mer.
Partir, venir, mourir, courir. Partir, venir et mourir. Écoute,
Vendredi sur mer, avec la Suissesse Charline Mignot au cœur de l'espace presse et artiste des Francofolies de Montréal. Un mélange pop électro avec un soupçon de Mylène Farmer. Bonjour Charline.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Comment vous l'avez choisi ce nom-là, Vendredi sur mer?
C'était une invitation au voyage, j'avais envie de quelque chose qui soit un peu poétique et pas ordinaire. C'est une association de mots que j'aimais bien. Il n'y a pas vraiment de raison particulière à pourquoi la mer et pourquoi le vendredi, mais en tout cas, c'était des mots que j'aimais bien.
Votre musique crée une ambiance, en tout cas, Charline, un univers. C'est assez visuel car il y a du relief sonore. Et d'ailleurs, vous êtes aussi photographe.
Je ne sais pas si c'est parce qu'on le sait, mais ça se ressent un petit peu dans votre musique.
En fait, je crois que je me nourris des images et donc... À mon avis, forcément, dans mes chansons, il y a comme des images qui sont propres pour chacun et chacune, qui sont très différentes, mais c'est des choses que j'aime bien sur les BO de films italiens, par exemple. On pourrait presque, en écoutant une BO, connaître déjà le film avant de l'avoir vu.
En Suisse, les médias se sont emparés de votre premier album, Premiers émois. Ça a un effet particulier quand même quand on est artiste francophone en Europe, d'arriver sur le continent américain, il y a quelque chose quand même, non ?
Oui, c'est sûr, de traverser l'Atlantique, c'est chouette. Et oui, et que ça dépasse les frontières, c'est vraiment cool. Je crois que c'est un peu grâce aux plateformes de musique maintenant qu'on peut écouter partout de la musique. C'est quand même assez chouette que ça existe. Et ça fait voyager la musique à travers les frontières, donc c'est trop bien.
Il paraît que vous connaissez plus de 200 chansons par cœur, Charline, c'est vrai ça ?
Oui, je pense.
C'est vrai ?
Bah ouais, ma mère, elle m'appelait le jukebox quand j'étais petite, parce que je connaissais... mon père écoutait beaucoup de musique, et beaucoup de musique francophone, quoi. Donc des textes en français, et c'est vrai que je connaissais pas mal de choses. Je connais un album par cœur de Touré Kounda, où j'ai jamais compris un seul traître mot. Je connais « Radida, radida, galle muninaro, radida rulle, galle muninaro, ma galle munana, etc. »
Et tout ça en phonétique.
Oui, c'est ça.
Les négresses vertes, vous connaissez, voilà l'été ?
Oui.
Ça donne quoi ?
Voilà l'été, voilà l'été. Voilà.
Merci beaucoup, Vendredi sur mer.
Merci.
Merci. On va aller justement tout de suite du côté de la grande scène de ces Franco de Montréal pour ce club francophone très musical avec les négresses vertes. Merci, Charlie.
Merci.
Voilà, on arrive derrière la grande scène de ces Francofolies de Montréal avec les Négresses Vertes qui ont donné un concert événement ici. Bonjour Stéphane et Polo.
Bonjour.
Vous êtes déjà venu à Montréal, vous connaissez bien cette ville ?
Ah oui, on est venu régulièrement depuis 30 ans, on vient régulièrement à Montréal pour y jouer, que ce soit au Franco ou dans d'autres festivals ou concerts. On s'est arrêté 17 ans et de revenir et de retrouver, comme si on s'était arrêté hier, à la fois les émotions qu'on vit entre nous et puis le public qui est resté présent, qui a attendu, c'est quasiment inespéré.
La francophonie, les festivals francophones, c'est important pour vous ?
Ah bah oui, le français c'est notre langue maternelle. On parle un peu arabe aussi, on est polyglotte, ouais.
Polygrotte. Bon, il y a une tradition dans cette émission, dans ce club francophone. L'été, c'est de donner une plage, un plat et une musique que vous écoutez l'été. Où emmèneriez-vous les auditeurs ? Sur quelle plage du monde ?
Moi, je les emmènerai à une plage où je vais régulièrement l'été. Je vais sur des petites plages de l'Espiguette, au Gros-du-Roi.
Ah oui ?
Oui.
En Camargue.
En Camargue, voilà. Ça, c'est une plage qui est gratuite. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de plages payantes. Celle-là, elle est gratuite, elle est grande, elle est vaste, la mer est belle, le sable est chaud.
Ok, on écoute quoi, Polo ? Quelle musique vous emporte l'été ?
On écoute moi, j'écoute Voilà l'été.
Oui, j'en étais sûr. J'allais dire sauf Voilà l'été.
En fait, il n'y a pas tellement de musique d'hiver, musique d'été, c'est un peu un tout.
Et un plat, donc, pour terminer, du coup, parce qu'il manque plus que ça.
Le couscous, enfin.
Ah oui ?
Direct.
Vous aimez ça, vous, le couscous ?
Ah, moi, j'adore. Bien piquant, bien chaud, propre.
Polo ?
Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Couscous, tagine. On aime bien aussi le barbecue.
Oui, en été, quand même. Ouais, c'est que des trucs qui donnent chaud, quoi.
Exactement.
Bon, merci beaucoup, les Négresses Vertes. Merci d'avoir accueilli la librairie francophone Estivale.
Merci à vous, merci.
On va rester dans une ambiance de concert avec un titre acoustique interprété dans le studio de la librairie francophone. Pedro Kouyaté et Mamani Keita chantent Camillo. Vous écoutez la librairie estivale sur la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada, France Inter et RFI. Nina Bisse
Tape-moi là. Tape-moi bisé. Sans yo, yeah, all humanity. Tu t'as tout donné, Camille. Ça n'a jamais été suffisant.
C'était les artistes maliens Pedro Kouyaté et Mamani Keita en version acoustique pour la librairie francophone avec Camillo. Et on se retrouve tout de suite en studio, on quitte les rues de Montréal pour rejoindre Nancy Houston.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérad.
Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez donc ce livre que j'ai ici sur le plateau, Sensations fortes, donc un recueil de nouvelles, 9 nouvelles écrites entre 75 et 97. Vous parlez du mur de Berlin avec le mur des perturbations, une nouvelle écrite en 1986. On est 3 ans avant la chute du mur et vous imaginez un nouveau mur en plexiglas.
Voilà, parce que c'était après 30 ans, je crois qu'on fêtait les 30 ans de ce mur de Berlin, et oui. C'était pour un recueil de nouvelles qui s'appelait « Fausses nouvelles », donc on devait prendre un sujet d'actualité et broder autour. Et j'ai failli supprimer cette nouvelle, en fait, parce que ça raconte la femme de Helmut Kohl, oui. Qui, lorsqu'on dévoile ce nouveau mur qui est en plexiglas, qui est donc transparent et avec la valeur de la transparence, oui, oui. Chère à Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, etc. Et il y a juste le laser au-dessus qui va punir tous ceux qui essaieraient de traverser. Eh bien, Madame Kohl voit un petit fonctionnaire moustachu de l'autre côté, en Allemagne de l'Est, et c'est l'amour fou.
Et c'est instantané.
Instantané. Ouais. Après la mort de Helmut Kohl cette année, j'ai entendu que Madame Kohl s'était suicidée, ouais. Et je ne l'avais pas su, donc j'ai un petit peu lu autour de ça. Et finalement, j'ai appris que Kohl l'avait trompé pendant... des années, des décennies, il avait une autre femme, et que Madame Kohl n'apparaissait jamais en public.
Donc ça, vous l'avez appris après.
Et donc, Madame
Kohl dit dans votre nouvelle, on peut le dire, hein, on va pas tout dévoiler, mais elle dit, mon mari ne m'a jamais touchée. Et vous laissez entendre, en fait, qu'elle a été trompée toute sa vie. Et c'est pour ça qu'elle va embrasser cet homme-là
de l'autre côté du mur.
Je ne savais pas, mais je me suis dit, ça fait une petite revanche posthume pour Madame Coe.
Bon, on trouve plein de choses, on y croise Kennedy, enfin, c'est un peu fantasmagorique hein, cette nouvelle, c'est assez étonnant. Il y a cette nouvelle dans le métro parisien, une jeune fille japonaise, joyeuse, en robe d'été, qui arrive comme ça dans la rame. Vous êtes installé, en tout cas votre personnage est installé, et elle va subir une forme de harcèlement sexuel avec un homme qu'on imagine exhibitionniste, en tout cas qui sort son sexe.
Voilà, et donc nous voyons tout à travers les yeux de la narratrice. Elle est indignée, c'est une sorte d'intello féministe comme ça, et qui est furieuse contre ce monsieur. Et puis elle essaie d'imaginer la suite de la vie de cette jeune femme. Elle imagine comme elle doit être agressée fréquemment en circulant dans le métro. Elle a une beauté un peu de porcelaine, extrêmement fragile, une sorte de perfection qui peut souvent être vécue comme une agression, effectivement. Mais ce qui est intéressant pour moi dans cette nouvelle, que j'ai donc redécouverte en concoctant le recueil, c'est que la narratrice elle-même, elle continue et elle en rajoute et elle en rajoute et elle imagine. En fait, elle commence à détruire cette fille dans sa tête. Elle imagine que quand on parle de ses jolies jambes, elle perd ses jambes et elle est cul-de-jatte. Et quand on lui dit les beaux yeux, elle perd ses yeux, elle est aveugle et ainsi de suite.
Oui, c'est-à-dire qu'elle envisage finalement sa vie après ce traumatisme. Elle imagine tout ce qui peut lui arriver. Parce que c'est vrai, quand on vit un traumatisme, en plus à l'enfance quasiment, à la sortie de l'enfance, elle est adolescente, cette jeune japonaise, on se retrouve comme ça, avec ça en mémoire. Et la question du harcèlement, la question de l'agression sexuelle est au cœur hein, de l'actualité en ce moment. C'est aussi au cœur de votre œuvre. C'est un sujet qui vous a toujours tourmenté, Nancy Houston?
C'est un sujet qui m'a toujours concernée parce que j'ai été très harcelée étant jeune, très. Et ensuite, avec l'âge, j'ai pas seulement cessé d'être harcelée ou, disons, souffert moins de ce travers, hein, comme on dit, travers de porc. J'aime pas du tout cette expression balance ton porc. C'est un travers humain, c'est pas un travers de porc.
Ouais.
Mais. J'ai aussi commencé à réfléchir un peu différemment à cela. Autant c'est important, bien sûr, c'est beau même avoir cette sorte de convergence, ce déferlement des voix qui viennent d'un peu partout et qui disent ce qui a été subi et qui disent la douleur et l'indignation. Je pense toujours qu'il faut monter en amont et voir qu'est-ce qui déclenche et pourquoi notre société en particulier à une sorte d'épidémie d'harcèlement sexuel. Et je pense que c'est parce que il y a beaucoup d'industries qui profitent du fait de nous exciter, d'exciter les hommes notamment en permanence, à travers les publicités avec plein de femmes quasi nues partout dans la ville.
Donc c'est un problème sociétal pour vous? La façon dont on a étalé la femme et qu'on l'a sexualisée comme ça à la fois dans les films, dans les publicités, en dehors de la pornographie évidemment qui existe.
Oh, pourquoi dire en dehors? On n'est pas du tout en dehors, on est en dedans.
Et ça a toujours existé.
C'est une éducation. Oui. Non, mais ça n'a jamais existé à ce point.
Oui, oui.
Ça n'a jamais existé
avec
que les
Internet,
garçons,
oui.
dès l'âge de 9-10 ans, se mettent à regarder la pornographie et que c'est leur éducation sexuelle principale. Oui. C'est extrêmement grave.
C'est terrible. Oui.
C'est extrêmement grave. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite, étant donné qu'on a dit bye-bye à toutes les restrictions religieuses, etc., il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une sorte de démocratisation du droit de cuissage.
Vous expliquez d'ailleurs quelque chose de très juste dans cette nouvelle, parce que vous dites que cette femme, elle doit se dédoubler, soit avec un homme à son bras, comme ça elle va éviter les attouchements, les regards insistants aussi, mais aussi avec le ventre de la femme enceinte, parce que le ventre de la femme enceinte, finalement, ça symbolise l'homme. Il n'est pas là, mais ça veut dire qu'il y a un homme derrière. On va terminer avec un autre sujet grave, Nancy Houston, dans la nouvelle Carpentras, écrite en 97. Vous racontez, comme si vous en aviez été témoin d'ailleurs, la profanation du cimetière juif. Il y a de la colère et du dégoût dans ce texte. Vous écrivez des choses terribles. Vous dites les mots juifs, arabes, noirs servent simplement à désigner ce que la vie a d'insoutenable, le fait qu'on ne puisse compter sur rien, qu'il n'y a jamais assez d'argent, que leurs mères sont en train de perdre leur beauté et de vieillir, que leurs pères sont des ratés, que personne ne respecte. Juifs, arabes, noirs sont des mots qui désignent tout cela, et plus encore, des mots qui disent l'ennui et l'absence de perspective.
C'est aussi un exemple de ce besoin ou devoir peut-être de l'écrivain de remonter en amont et d'essayer de voir les causes des événements et pas seulement dénoncer les événements eux-mêmes. Et j'étais impressionnée moi-même de redécouvrir cette nouvelle et de voir que j'avais réussi un peu à me glisser dans la tête de ces garçons.
C'est cela qui conduit à vivre des sensations fortes, l'échec et la perdition ?
Il y a toutes sortes de sensations fortes, mais
ça n'excuse pas, en tout cas.
Je pense que c'est cela qui pousse des jeunes hommes à la violence, probablement.
Merci beaucoup Nancy Huston, merci d'être revenue sur le plateau de la librairie francophone. Sensation forte est parue aux éditions Actes Sud. À vous donc qui nous écoutez de vous faire une opinion à travers le monde. Alors, on va terminer cette émission sur la place des Arts, face à la grande scène des Francofolies de Montréal, avec des jets d'eau tout autour de nous et des enfants, évidemment, qui jouent tous ensemble. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter en France, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. À la réalisation, Cyril Pascal, Thierry Dupin pour la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons à Genève avec Métine Arditi sur les routes des vacances en camping-car avec Yvan Jablonka. Nous serons aussi avec la chanteuse Jane Birkin et le club francophone sera celui du Suisse Joël Dicker qui invite le grand cinéaste Jean-Jacques Hano. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale depuis Montréal. Bon week-end et bel été à tous.